France Bleu Roussillon. France Bleu Roussillon. Lundi c'est rugby avec Cyril Manière et Philippe Anglade.
Jusqu'à 19h, on parle rugby avec vous, Cyril Manière, bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Et avec vos invités.
Christian Lantal, directeur sportif, bonsoir. Je vais y m'étouffer d'entrée.
Bonsoir à tout le monde.
Et Patrick Arletaz, l'entraîneur, bonsoir.
Bonsoir.
Pour revenir sur. Oui. Sur la défaite à Toulon, malheureusement, les week-ends et les lundis, du coup, se suivent et se ressemblent. Même plus que jamais, parce qu'encore une fois, ben voilà, l'USAP n'a pas été mauvaise samedi soir à Toulon, loin de là, mais c'est à nouveau 0 point au compteur. Donc on fait le point avec Patrick Arletaz et Christian Lanta sur la situation et sur
le match. Aussi,
et sur l'avenir aussi.
L'avenir,
ouais.
Bon, même s'il y a 15 jours de break, on en parle sur France Bleu Roussillon. Lundi, c'est rugby. C'est rugby pour nous et circulation sur France Bleu Roussillon jusqu'à 19h.
L'USAP. Suivez l'USAP avec limonade mille, limonade catalane à l'eau de source et aux extraits naturels d'agrumes depuis 1928.
Et on va parler évidemment en tout premier lieu de la situation actuelle de l'USAP avec vous, Cyril Manière.
Ouais, malheureusement, comme on disait, Christian Lanta, bon, c'est toujours la même situation comptable et même si on englobe un peu tout entre le match, une USAP qui est plus que correcte samedi à Toulon mais qui revient avec 0 points.
Oui, parce qu'on parle d'une grosse contre-perf, on perd à Toulon, quoi. Non, mais toute proportion. Oui, on était déçus, nous, staff et joueurs, parce que on n'a pas su se payer de ce qui pouvait être au moins un point bonus, quoi. Et qui aurait été quand même une belle performance, parce que pendant une mi-temps, je crois qu'on a su à la fois être très solide défensivement, parce que Toulon, je crois qu'on les galvaude un peu et qu'on n'a pas tout à fait idée de la valeur des joueurs qui composent cette équipe-là, même si elle n'est pas tout à fait en place, c'est vrai, collectivement, mais la qualité des joueurs individuellement, et c'est là où ils nous ont battus, tout simplement, sur leur qualité individuelle, avec un ancien Perpignanais, Tao, qui a fait un match exceptionnel.
Il a tenu à flot pendant une heure, en fait.
Et d'autres. Voilà, mais je crois qu'on n'a pas à rougir de notre défaite, hein, parce que je crois que défensivement, on a été très, 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 très solide, parce que oui, on prend un essai en deuxième mi-temps, le premier, c'est sur un ballon porté, mais je veux dire, sur l'ensemble du jeu, ils nous ont pas quand même tellement perforé, il y a une très belle production défensive de l'ensemble de l'équipe et de nos deux centres, Kokaji et Piukala, qui jouaient quand même deux All Blacks, deux internationaux All Blacks devant eux. Donc voilà, on a su marquer un très bel essai, on a su tenir le ballon, et voilà, puis la deuxième mi-temps, beaucoup plus difficile, une opportunité. Donc voilà, en sport, il faut aller chercher les points. Les mériter, c'est jamais suffisant, parce que si on avait marqué les points qu'on mérite, on en aurait beaucoup plus au compteur. Mais en même temps, il faut l'accepter, c'est comme ça. Il y a pas, mon discours ne varie pas. On était déçus. Mais c'est vrai qu'on perd ce match sur un manque d'expérience et sur la qualité des joueurs adverses. Voilà. Mais c'est un match qui reste porteur pour nous. Parce que, oui, certes, de la déception, mais je crois que les joueurs ont touché à une intensité, ils le disaient eux-mêmes, ils n'avaient jamais, depuis deux matchs, on en parlait avant l'émission.
Ouais, moi, les joueurs qui me l'ont dit en micro, qu'à la fois Toulouse et Toulon, ça avait,
Toulouse et Toulon,
deux matchs où ça avait tapé le plus fort.
C'est où ça tape très fort, et très franchement, on a très peu cédé physiquement. Bien sûr, on a subi quelques plaquages, mais sur le nombre de ballons récupérés, sur notre présence, sur notre capacité à contrer, je crois que l'équipe a fait d'énormes progrès.
C'était en fait la même chose, non, contre Toulouse. Il y a aussi la différence qui s'est faite par des talents.
Oui, mais après, c'est toujours difficile. Les auditeurs, les supporters aimeraient, et nous aussi, on aimerait gagner, mais en même temps, c'est deux performances de qualité, mais qui se soldent par rapport à ça. Parce que regardez, certains pensaient que Toulouse, qu'on n'avait pas été très bon devant Toulouse, il y a qu'à voir ce qu'a fait Toulouse, avait 7 ou 8 absents. Parce que Toulouse était au grand complet contre nous. Et ce qu'ils ont fait avec 7 ou 8 absents, ils ont mis 40-0 à Bordeaux. Alors tout ça ne nous console pas. Très franchement, tout ça, c'est le discours, il n'est pas là. Nous, c'est se concentrer sur comment faire progresser notre équipe, comment arracher nos premières victoires, parce que c'est un groupe qui bosse bien, un staff qui bosse bien. Et voilà, donc c'est à ne pas se laisser entamer par les défaites, mais travailler sur les progrès qu'on fait, sur les manques que l'on a. Il faut aller encore toujours plus loin. Et je crois que sur ce match de Toulon, il nous a manqué simplement un peu d'expérience et de maîtrise. Parce qu'on avait les 3-4 ballons, les 2-3 fautes qu'il ne fallait pas faire, ne pas être
pénalisé. Notamment en fin de match, pour aller sur chercher ce bonus défensif.
Voilà. Ouais. Et je crois que très franchement, c'est aujourd'hui, c'est dans ce secteur-là qu'il faut aller chercher nos progrès.
Alors, c'est déjà un genre de match qui peut faire avancer l'équipe techniquement, comme le dit plus ou moins Christian Anta, ou est-ce que la question qu'on se pose toujours, une 9e défaite, et on n'y arrive pas, et que mentalement cette équipe s'enfonce, Patrick Arletaz?
Ouais, il y a des choses, il y a un peu des deux. Moi, je trouve que techniquement, dans la progression, et sur tous les compartiments sur lesquels on était un tout petit peu en retard, ou franchement en retard en début d'année, il y a une progression là-dessus. Avoir nos prestations en termes d'envie, de capacité à combattre, d'enthousiasme ou quoi que ce soit, je sens pas une équipe émoussée, abattue, qui a envie de lâcher. Donc voilà, ça c'est des certitudes sur lesquelles on peut s'appuyer. Et après, effectivement, force est de constater qu'en ce moment, de toute manière, vous savez, en rugby, de temps en temps, je le disais ce matin à Christian, de temps en temps, vous savez, on gagne des matchs, on ne sait pas trop pourquoi. Ça tourne un peu, des fois on le mérite pas trop, et ça tourne en notre faveur. Et depuis le début de l'année, force est de constater que si on se gagne pas tout, ni le sort, ni l'équipe d'en face, ni l'arbitre, personne ne nous donne rien. Donc on est dans cette situation parce qu'il faut tous gagner, tous mériter et continuer en attendant que ça veuille bien tourner. Attendre que ça veuille bien tourner, c'est pas faire du surplace, hein, rester sur ses acquis et attendre que le sort nous fasse. Non, c'est progresser pour le mériter encore plus, pour le provoquer encore plus et pour quand ça va commencer à s'ouvrir. Ce que je reste persuadé que ça va le faire, quand ça va commencer à s'ouvrir, qu'on arrive à enchaîner les performances où on basculera en fin de match sur quelque chose de positif pour nous. On a un objectif très fort qui est de se maintenir. Voilà, on a un objectif tacite, mais qui est d'avoir de montrer un visage convaincant tous les matchs pour ne rien regretter à la fin. Ce qu'on regrette et ce dont on est en train de parler à Toulon, c'est le manque de maîtrise sur des techniques, sur deux touches, deux coups d'envoi, cet essai qui nous fait mal et qui ressemble beaucoup à laisser comprendre contre Toulouse de début de mi-temps, c'est-à-dire une défense pendant deux minutes où on loupe zéro plaquage, où on s'arc-bout auprès de la ligne, où on récupère le ballon et un temps de jeu plus loin, alors qu'il y a un avantage de pénalité, on le perd. Et là-dessus, de nouveau, une minute trente de défense. Non, mais je ne reviens pas sur l'avantage de pénalité, ça c'est des choses que j'ai dit, c'est entre l'arbitre, le sort, nous.
Oui, juste que vous avez joué l'avantage,
voilà,
vous
c'est comme
avez gagné 40
mètres. L'avantage, et sur une brutalité, normalement,
on revient tout le temps. Sur une brutalité, l'avantage, il faut y revenir.
Peu importe. Hein. Et donc, on perd ce ballon-là et on repasse une minute à défendre. Et à ce moment-là, le premier plaquage manqué, il est sur Tao et de suite après, c'est Savea qui marque. Et celui-là nous fait mal d'essayer. Celui-là, il nous fait mal parce qu'on maîtrisait plutôt bien, qu'on avait contenu leurs assauts, qu'on avait récupéré le ballon. Et ça, c'est le genre de petite faute qu'on a répété sur les deux matchs. Le nombre de matchs, je ne peux pas vous placer, le nombre de matchs où on récupère le ballon, ça fait comme ça, ça tape, et puis il y a un en avant, un machin, on récupère le ballon.
Parfois, le match de samedi résume plutôt bien votre premier tiers de championnat.
On se fait punir de suite. Voilà, la moindre petite faute, on se fait punir de suite. Donc, ça veut dire, il y a deux choses. La première des choses, c'est qu'il faut éviter toutes ces petites fautes, mais dans un match de rugby, il y en a toujours. Hein, on en fait toujours. Il n'y a que ceux qui jouent plus ou ceux qui sont dans les tribunes qui n'en font pas. Et aussi espérer qu'à un moment donné, sur les toutes petites fautes, il n'y ait pas d'aussi grosses conséquences. Ouais. Voilà. Par contre, on travaille dur tous les jours et les joueurs travaillent très très dur et ils mettent tout leur cœur, que ça soit pendant la semaine ou pendant le week-end, pour gommer toutes ces petites erreurs, pour se donner le droit de gagner un match.
Les joueurs sont au repos, mais le staff est dans les studios de France Bleu Roussillon. Lundi et rugby se poursuit dans un instant sur France Bleu Roussillon. Donc.
L'USAP. Suivez l'USAP avec limonette mille, limonade catalane à l'eau de source et aux extraits naturels d'agrumes depuis 1928. France Bleu.
Jouez sur France Bleu Roussillon et faites gagner des repas au Resto du Cœur. Dans chaque jeu, nous transformerons vos points marqués en repas pour les restos.
On vous promettra pas les toujours du grand soir. mais juste pour l'hiver, à manger et à boire.
France Bleu Roussillon et Intermarché, Argelès et Cabestany s'associent pour les Restos du Cœur.
J'avais cette petite mélodie qui me trottait dans la tête. Fais-en qu'à ta tête, change de lunettes. Fais-en qu'à ta tête, change de lunettes. Avec mon opticien qui connaît la musique, on a trouvé le bon tempo. Une monture en accord parfait avec ma personnalité. Et je dois vous dire que je récolte un concert de louanges.
Optique Via Santé, n'en faites qu'à votre tête. Changez de lunettes. En ce moment, vous avez 30% de remise sur votre monture favorite. Et la deuxième paire offerte. Optique Via Santé, c'est ouvert à tous. Rendez-vous dans nos magasins à Argelès-sur-Mer, Cabestany, Perpignan, Prades, Carcassonne, Périgueux et Toulouse.
Voir conditions en magasin.
França Blau Rosselló a Banyuls.
France Bleu Roussillon.
102.8. France
Bleu. 18h19, un point trafic, Sébastien Giraud.
Il y a un obstacle sur l'autoroute A9 en direction de Narbonne, secteur de Fitou. Ne vous laissez pas surprendre. Sur Perpignan, c'est toujours très compliqué en direction de Canet. Nous sommes sur la voie sur berge. Il y a également du monde sur le pont Aragon en direction du sud. Un trafic toujours très dense sur le contournement nord-ouest de Perpignan, également entre l'hôpital et Bonpass. Ça coince dans les deux sens de circulation sur l'avenue Julien Panchaud, entre la prison et l'échangeur de Perpignan sud, direction Thuir. On a du monde aussi sur l'avenue Victor d'Albiès en direction du sud, sur la Rocade Sud en direction d'Argelès, sur les grands axes du Moulin Avant en direction du sud, entre Cabestany et le Moulin Avant, et puis ça coince sur la route d'Espagne en direction de Poyestre après Perpignan, Philippe.
Un point dans un instant sur France Bleu Roussillon pour vous aider à rentrer chez vous, et d'ici là, on parle rugby.
France Bleu Roussillon, France Bleu Roussillon, lundi, c'est rugby.
Avec Christian Lanta, manager général, Patrick Arletas, entraîneur de l'USAP, et ils répondent aux questions de Cyril Manière. On revient sur la rade, hein, à Toulon, lieu de la dernière rencontre de l'USAP.
Ouais, il y a un an, on aurait déjà signé les deux mains pour y être à Toulon. On reviendra aussi d'ailleurs de suite un petit mot aussi, la belle surprise quand même, et encore que, ils nous surprendront toujours aussi, ces supporters de l'USAP, quand on voit votre situation, le monde qu'il y avait pour vous soutenir, Patrick et Christian, samedi soir, ça c'est quand même une très belle nouvelle. Et vous avez une super entente de supporters de Toulon et de l'USAP, quoi.
On va parler avec Patrick. Moi, je ne me suis pas caché à la fin de l'année. J'ai vécu des choses comme je n'avais jamais vécu dans le soutien lors des phases finales la saison passée, que ce soit le match à domicile, la demi-finale ou la finale. Ça a été exceptionnel, ou la journée, ou le mardi au Castillet. Mais je suis, parce que ça, je l'avais jamais vécu encore. C'est le soutien de nos supporters qui, je crois qu'il y avait 3 bus, c'est ça?
Oui, 3 bus, plus tous les gens qui sont venus de même, ouais.
Mais on s'est retrouvés, pendant la nuit, on s'est arrêté
sur une heure d'autoroute.
Ouais. Ils nous ont fait une haie d'honneur, ils ont applaudi les joueurs, ils nous apportent un soutien total et ça, les supporters, c'est bien, mais quand on gagne, c'est très bien, c'est parfait. Mais c'est là où ils ont un rôle à jouer, et je crois que nous, on peut trouver des mots, et on les trouve. On a des leviers sur lesquels on peut jouer pour maintenir la motivation de nos joueurs, et qu'ils ne lâchent rien. Et ça, c'est clair, ils ne lâcheront rien. Mais des moments comme ça, oui, ça apporte un petit plus. Ça apporte un petit plus pour les joueurs et pour nous aussi en tant que staff. Donc, ouais, c'est assez exceptionnel, mais je dis toujours, il y a une forme de compréhension générale, il y a une intelligence populaire des supporters qui sentent que rien n'est perdu. Bon, il y a toujours quelques pisse froid comme ça qui vont toujours dire que c'est fini, mais en sport, s'il y a une chose qu'on a appris, c'est jamais fini. Et que ces supporters-là, voilà, je crois qu'ils ont ressenti fort, et de les sentir derrière nous, c'est vraiment, c'est très très important.
Surpris ou non, Patrick, on va parler de ce qui se passait notamment il y a 5 ans, quand l'USAP n'était pas encore dans la situation qu'elle est. C'était surtout en décembre, janvier, que ça avait été très critique avant la relégation. Il n'y avait pas le même soutien, pas la même croyance des supporters derrière l'USAP. Bien sûr, comme dit Christian, et il y en a qui sont pas contents et qui râlent, et ça, il faut de tout également, mais on voit cette mobilisation.
Si la question c'est si je suis surpris, oui, je suis surpris. Le public catalan, je le connais depuis longtemps, puisque j'en ai fait partie pendant très longtemps du public catalan et des supporters, etc. Le public catalan a toujours été un des ou le plus passionné de France, sans aucune commune mesure, aucune comparaison faite avec n'importe quel autre public de France. Ça a toujours été le plus passionné. ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est indépendant. Enfin, ça vient se greffer sur la passion. Mais là, le public catalan est en train de devenir le meilleur public de France. Et je le dis sincèrement, honnêtement. Ce qui est une grande différence. On l'a toujours dit, le public catalan est le meilleur public de France. C'est pas vrai. Moi, j'ai connu des périodes noires en 85, 86, 87, ouais. Comme ça, où le stade était vide, où Gilbert Brutus était rempli, où on entendait les clameurs de Gilbert Brutus qui arrivait avec la Tramontane. Et moi, j'étais dans les tribunes. On était 150. Hein. Voilà. Donc, c'était en première division. Et donc, voilà. Et c'est un public qui a toujours été très, très passionné. Là aujourd'hui, ouais, je suis surpris. Je suis surpris parce qu'ils ont pris la température. Et vous savez, on dit toujours... On dit toujours ici, je l'ai dit 1500 fois, mais que le courage, l'abnégation, le fait de rien lâcher, voilà, c'est retenu avant le talent, avant les performances, avant quoi que ce soit. Je l'ai toujours dit, et en même temps, je le croyais qu'à 90%, sincèrement, honnêtement. Et là, aujourd'hui, je crois que c'est ce qui est en train de se passer. Voilà. C'est-à-dire que tout le monde comprend un tout petit peu quelles sont nos limites. Hein. Tout le monde peut critiquer les compositions d'équipe, de temps en temps les choix, les petites erreurs, etc. Mais ça fait partie du jeu. Moi, je supporte même ceux qui croient que c'est terminé, etc. Mais pour l'instant, ils sont marginaux et l'énorme pourcentage du public comprend ça et en même temps reconnaît à cette équipe, hein, voilà, comme une espèce de gladiateur qui a perdu mais qui s'est battu jusqu'au bout et jusqu'à la mort, et reconnaît à cette équipe ces valeurs-là et reconnaît que elle veut pas trahir, qu'elle veut tout donner, qu'elle donnera tout jusqu'au bout de tout ce qu'elle a. Et quand je parlais tout à l'heure d'objectif, cet objectif-là, c'est un objectif qui maintenant, enfin, même pas maintenant, c'est né des joueurs, vous savez, c'est l'histoire de la poule et de l'œuf, je sais pas de qui c'est né exactement, ouais. mais c'est quelque chose qui a forgé notre équipe aussi. De rien lâcher, quels que soient les résultats, quels que soient, le, ça sera mort quand on lâchera. Voilà. Tant qu'on ne lâche pas, c'est pas.
S'il n'y avait pas le soutien du public, ça serait beaucoup plus facile pour certains joueurs lâcher.
Ça. C'est-à-dire, comprenez, c'est-à-dire que c'est ce que disait Christian, le support du public, ces encouragements, où finalement ils reconnaissent les valeurs humaines de ce groupe-là, le fait qu'ils luttent pour nos couleurs, que partout on passe, hein, et quelles que soient les équipes qui viennent, hein, malgré la défaite, il n'y a jamais de honte. Et c'est ça qui fera qu'on arrivera à s'en sortir. Et le public ressent ça. À la fin des matchs, vous savez, un catalan, je l'ai toujours dit, le catalan, s'il est sûr et certain qu'on va perdre, hein, il ne vient pas. Il se déplace pas, tellement la honte est forte sur la défaite. Et je crois que c'est en train de changer. En fait, le public maintenant a compris, il se déplacera pas si on se bat pas. Voilà. Et c'est cette fierté qu'on a aussi, moi en tant que Catalan, encore plus, fatalement. Mais j'ai l'impression que le public reconnaît dans cette équipe, dans nous tous, l'énorme volonté de combattre jusqu'au bout et en se rendant compte que rien n'est facile. Qu'on a un peu tout contre nous. En plus du fait qu'on ait peut-être les petits poussés, etc., on n'a rien qui tourne en notre faveur. Oui. Il reconnaît ça tout en reconnaissant à l'équipe qu'elle se bat malgré tout ça, voilà, et qu'elle se bat plus que tout. Et le public se déplace et encourage parce qu'elle sait qu'elle va être fière de son équipe, même si, à un moment donné, il n'y a pas la victoire. Et en même temps, elle espère qu'il y aura la victoire, comme moi, comme nous.
Et le fait d'être passé en Pro D2 pendant 5 ans, ça permet aussi de montrer que là, on est remontant au 14, et il y a des affiches, et le public, c'est un public de connaisseurs, et ils sont contents aussi d'avoir des affiches,
bien sûr.
Et de bien y figurer, malgré tout.
Mais je suis entièrement d'accord, et c'est excitant pour tout le monde, et c'est excitant d'avoir remis l'USAP à ce niveau-là, et les supporters veulent qu'on y reste très fort, et nous, on veut qu'on y reste très fort. Et mais je veux dire, la principale reconnaissance, je crois que c'est celle-là. Et je le redis encore une fois, et quand un public reconnaît ça, son équipe, et arrive à faire la part des choses entre les moyens qu'elle a, les erreurs qu'elle fait de temps en temps, mais le fait qu'elle y mette toute sa volonté, toute son âme, tout son cœur là-dedans et tout ça, quand un public reconnaît ça dans notre sport, quand il reconnaît ça, ça devient le meilleur public de France. Et ce n'était pas le cas. Je suis désolé, ce n'était pas le cas. Et je le dis encore plus parce que je le dis, je me mets dedans. J'ai en effet parti, moi, pendant des années. Moi, je suis monté, j'avais 5 ans, en 77, je suis monté à Paris. Voilà, j'étais peint, etc., machin. Et en 77, quand on a perdu, j'étais déçu. Et j'ai pas sifflé, machin. Mais enfin, quand même, bon, voilà. J'étais quand même très déçu. Et la saison avait un sale goût. Et là, maintenant, à l'heure actuelle, hein, je vous le redis encore une fois, ce n'était pas le cas, c'était le public le plus passionné. À l'heure actuelle, c'est le meilleur public de France. Ce qu'on vit à l'heure actuelle, c'est un soutien qui nous est absolument indispensable et qui aide les joueurs, vous pouvez pas vous imaginer comment, et qui m'aide à moi et qui aide Christian. Et on a rarement vu comme, quelque chose comme ça.
Pour terminer, l'image elle est surprenante. C'est vrai, à la fin du match, les Toulonnais qui s'en vont vite parce que ouf, ils ont gagné face aux derniers, ils étaient sauvés, et que les supporters catalans ont quand même entendu chanter quand même pendant 20 minutes derrière la tribune à la fin du match. Et c'est vrai que quand t'as 9 défaites, c'est juste scotchant. Hein.
Un petit point. Je finis juste. Je prends une demi seconde.
Vas-y.
C'est pas scotchant.
Ça m'a scotché samedi soir. Ça le connaît le public, mais ça m'a scotché.
Non, mais c'est pas. On n'est pas scotché de ça. On est ému de ça.
Oui.
C'est pas la surprise qui prédomine, c'est de l'émotion, voilà. Et ça donne une force. Moi, je peux vous dire que les joueurs, ils sont déçus comme rarement des gens ont été déçus. Parce que quand vous donnez tout et que vous perdez, vous êtes vraiment, vraiment déçus. Voilà. Vous pouvez pas vous planquer derrière le fait de dire, on n'a pas tout donné la prochaine fois, etc. Ils mettent tout à nu, ils se mettent à nu, avec tout ce qu'ils ont pour pouvoir le donner. Et quand les supporters leur reconnaissent ça, c'est de l'émotion pure. Et je peux vous dire que tous les joueurs étaient abattus quand ils sont sortis. C'est plus qu'à une seule chose, c'est le prochain match et encore tout donner. Et ça, ça n'a pas de prix, et dans la situation dans laquelle on est, mais dans le sport qu'on fait, tout bonnement.
Un point avec Bernadette qui écoute lundi ses rugby sur sa radio, dans sa voiture, et il y a un accident entre Canet et Saint-Nazaire. Bernadette, bonsoir.
Oui, il y a un accident, une voiture qui a versé dans le fossé. Là, j'arrive sur Saleil et je viens de croiser les pompiers.
Donc
surtout que les automobilistes qui viennent de Canet et qui vont à Saint-Nazaire, ils ralentissent parce qu'il y a des gens qui ont des lumières, mais c'est à peine visible. Et comme c'est une route où les gens ils roulent à la vitesse.
Oui, c'est une ligne droite qui n'est pas très large, oui, effectivement.
Donc qu'ils fassent attention quand même.
Merci beaucoup Bernadette pour ces recommandations. Merci beaucoup Bernadette.
De rien, bonne soirée.
Bonne soirée, à bientôt sur France Bleu Roussillon. Donc, accident entre Canet et Saint-Nazaire. Soyez prudents sur la ligne droite, une voiture dans le fossé. Les secours arrivent. Dans un instant, on revient sur France Bleu Roussillon dans lundi, c'est rugby.
L'USAP. Suivez l'USAP avec limonade mille, limonade catalane à l'eau de source et aux extraits naturels d'agrumes depuis 1928.
France Bleu.
France Bleu Roussillon Midi,
à votre service,
est à votre service.
France Bleu Roussillon,
avec la grande affiche,
dans les Pyrénées-Orientales,
annoncez votre événement, et aussi par là même, découvrez des événements.
Et tous les jours, à votre service,
France Bleu Roussillon Midi,
à votre tour d'échanger,
c'est chaque jour, de midi jusqu'à 13h.
La grande affiche de France Bleu Roussillon.
France Bleu Roussillon vous invite à Nova Ona, un festival dédié à la black music, au rhythm and blues, la soul et le funk. Un plateau exceptionnel d'artistes régionaux, nationaux et internationaux seront réunis pour 2 jours de groove au Théâtre Jean Piat, les 9 et 10 novembre à Canet-en-Roussillon. Avec notamment Martha Haye, l'ex-choriste de James Brown.
On en parle.
Avec le prélèvement à la source en janvier, quel taux faut-il choisir? Les explications dans un instant avec Denis Putkovnik du Centre Impôt Service de Lille.
Muriel Robin nous parle de son livre « Fragile ».
Vous et moi, on se connaît depuis longtemps. On a beaucoup ri ensemble. Mais je ne vous ai pas tout dit. De moi, de mes fragilités, qui sont peut-être aussi un peu les vôtres. Ce livre, j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire. Mais j'y ai mis aussi et surtout, tout mon cœur.
Fragile, de Muriel Robin, un livre XO.
Dis papy, comment tu fais pour chauffer ta maison sans cheminée?
Avec la pompe à chaleur Viessmann. Elle chauffe la maison en hiver et elle la rafraîchit en été. C'est pratique et économique, hein. Et tout ça sans bruit.
C'est vrai qu'il fait toujours bon chez toi.
Avec la qualité des pompes à chaleur Viessmann, vous avez la garantie d'un confort thermique tout au long de l'année. Et vous réduisez enfin vos dépenses et votre impact sur l'environnement.
Avec votre nouvelle pompe à chaleur Viessmann, profitez de 30% de crédit d'impôt. Retrouvez l'installateur formé au produit Viessmann le plus proche de chez vous et ses offres de financement sur Viessmann.fr.
Tous à vos postes!
Peter, tu m'as fait peur.
Télécommande prête?
Télécommande prête, chef.
Le 6 novembre, les fréquences de la TNT changent. Alors pour tous ceux qui reçoivent la télé par antenne râteau, il faudra faire une recherche de chaîne pour continuer à recevoir la TNT.
Tu peux arrêter ça?
Êtes-vous concerné? Rendez-vous sur recevoirlatnt.fr ou au 0970 818 818. Appel non surtaxé.
France Bleu Roussillon.
Un point trafic à 18h32 avec vous, Sébastien Giraud.
Et on vous rappelle cet accident que Berdanet nous a signalé au 04 68 35 5000, accident entre Canet et Saint-Nazaire sur la ligne droite, voiture dans le fossé, soyez prudents sur ce secteur s'il vous plaît. Sinon nous avons toujours cet obstacle, secteur de Fitou en direction de Narbonne sur l'autoroute A9 et puis ça coince sur les grands axes de Perpignan, notamment la traversée du quartier du Vernet sur l'avenue du Languedoc et l'avenue Joffre en direction du sud. On a du monde aussi en direction de Canet sur la voie sur Berge, sur le pont Arago, sur le contournement nord-ouest de Perpignan, le pont du parc des expositions et le pont de la déchetterie. On a aussi un trafic toujours dense en direction d'Argelès vers Porte d'Espagne sur la rocade sud. Ça coince aussi en direction de Thuir après la prison de Perpignan. On a du monde sur les grands axes du Moulin à Vent en direction du sud et puis toujours des véhicules en nombre entre le Moulin à Vent et le Mas Guérido à Cavestany. Philippe.
Prochain point trafic, Sébastien Giraud, d'ici une dizaine de minutes.
France de Roussillon. France de Roussillon. Lundi, c'est rugby.
Avec le staff de l'USAP, Christian Lanta, Patrick Arletaz, qui répondent aux questions de Cyril Manière. Cyril, on revient sur la situation actuelle.
Ouais, avec les questions diverses. La dernière fois que vous êtes venus tous les deux dans le studio, on avait abordé plusieurs thèmes, et notamment la possible arrivée de joueurs supplémentaires, de jokers médicaux. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Est-ce que ça en est?
Christian Lanta, c'est sur l'actualité. On y travaille, mais comme je dis, c'est pas. C'est une chose qui n'est pas simple, mais on y travaille. J'espère que dans les jours à venir, on aura les annonces à faire, oui, mais aujourd'hui, rien n'est tout à fait bouclé. Voilà.
Mais c'est toujours en bonne voie sur deux joueurs.
Oui, c'est en bonne voie. Oui, on est plutôt sur un ailier centre parce que derrière on a eu beaucoup de blessés. Et il faut renforcer en tout cas notre secteur et sur un renforcement en première ligne.
Logiquement, ça serait bien pendant les vacances.
Oui, voilà, les vacances sont favorables. J'espère pouvoir finaliser ces deux joueurs.
Parce que. À l'écoute de vos discours, à la fois ce soir, mais depuis un moment, sur quel levier maintenant on peut agir? Parce que je faisais le parallèle, on le faisait samedi soir, on voit Toulon en difficulté, bam, ils sont capables, ils commencent de parler d'aller chercher trois internationaux venus d'autre part, vous pouvez pas. Le jeu, vous pouvez pas, est-ce que vous pouvez changer encore des choses? Les joueurs supplémentaires, faire jouer la concurrence un peu plus, sur quel gros levier vous pouvez jouer, si ce n'est rajouter des joueurs, si ce n'est changer des choses?
Les leviers d'aller chercher des joueurs, ce n'est pas le persuasif, parce que bon, Toulon a d'autres moyens financiers que les nôtres. Ensuite, pour un joueur, d'abord c'est trouver des joueurs, c'est ce que aussi parfois je l'ai déjà dit, c'est trouver des joueurs en ce moment-là,
surtout
c'est toujours
en première ligne.
Très compliqué, très très compliqué. Des joueurs de qualité et dont on est sûr qu'ils peuvent amener au moins une plus-value. Bon. Ensuite, il y a l'aspect financier, et puis il y a aussi notre situation dont on parle, c'est-à-dire que des joueurs qui, éventuellement, que ce soit un très bon joueur, éventuellement qu'on ait du salaire, c'est venir dans une équipe qui, pour l'instant, se bat au fond du tableau, quoi. Donc ça fait beaucoup de facteurs qui sont pas évidents. Voilà. Donc c'est pour ça que les décisions sont toujours un peu longues à prendre et... ou pour les joueurs pour venir chez nous, ou nous pour pouvoir les faire venir. Voilà, Toulon, c'est quand même, s'ils sont en difficulté, les grands clubs de haut de tableau, d'abord, ils n'ont aucune difficulté financière, puisque ça ne les gêne pas même de passer au-dessus de la salary cap. Ouais. Tout le monde le sait, tout le monde le sait, ils n'ont pas trop de frontières là-dessus, où ils ont toujours les moyens et puis c'est plus facile de mettre des très gros salaires et convaincre des garçons de venir dans leurs équipes.
Là, les joueurs sont en vacances toute la semaine.
Toute la semaine, oui.
C'est des vacances qui font du bien, pour le coup.
Oui, c'est des vacances qui font du bien.
Vous leur avez dit quoi? Vous lisez rien, vous n'écoutez rien, vous vous reposez?
Non, parce que, comme disait Patrick, s'il y a des garçons, certains, si on les a écoutés, ils auraient voulu quand même venir et faire de la muscu et continuer à s'entraîner. On a 15 jours pour préparer la suite. On y est depuis le 18 juin. Il y a l'aspect physique, il y a l'aspect bien sûr physique, mais il y a aussi l'aspect mental. Les joueurs ne lâchent rien, ils sont présents, psychologiquement c'est usant. Et je crois que la meilleure des choses, et là il faut pas avoir peur, il faut vraiment qu'ils coupent une semaine complètement. On sait que les garçons s'entretiennent de toute manière, mais ça va leur faire énormément de bien de couper. Il y en a, et d'ailleurs je crois qu'ils l'ont entendu, parce qu'il y en a beaucoup beaucoup qui quittent l'environnement et qui partent dans leur famille, à droite, à gauche, un peu à l'étranger. Et ils font bien et on les a encouragés à faire ça. Donc c'est une coupure nécessaire.
cette semaine le mental et la semaine prochaine le physique pour la reprise.
Oui, mais
plus axé sur le physique.
Mais on, oui, bien sûr.
C'est très caricatural.
Non, mais une semaine, on travaille sur tout.
Et après le jeu.
Et après la
compétition. C'est magnifique. Vidal, hein. Quel planning, on n'y avait pas pensé.
Non, mais on redémarrera comme on a toujours fait depuis deux ans et demi. On démarrera et tout est à travailler. Et dans une semaine, on travaille tout. Bien sûr, l'aspect psychologique, mental, mais l'aspect physique, l'aspect du jeu. On a encore d'énormes progrès à faire dans notre jeu. Donc, je crois qu'il faut savoir tout placer sur le physique ou sur le mental serait pas suffisant. Et une performance, c'est toujours l'interaction, oui, du physique, du mental, du psychologique, du technique, du tactique. Et donc, il faut aller dans tous ces domaines-là. Et bien sûr, la cohésion du groupe.
Et dans le jeu alors, oui. Non, mais Patrick, je vais en prendre une.
Je réponds sur ta question des leviers, mais
c'est celle que j'allais te poser directement derrière.
Ça tombe bien.
Quel levier reste dans le jeu alors?
Avant que tu
vas en parler des clubs en crise. Je reviens là, des clubs en crise quand on perd 9 matchs d'affilée, et j'allais faire le parallèle encore une fois avec il y a 5 ans où tout le monde réclamait la peau des entraîneurs, où tout le monde réclamait la peau de tel joueur. Donc c'est toujours les leviers qu'on parle partout dès qu'il y a une succession de mauvais résultats. Donc quel levier il peut rester, ou est-ce que c'est toujours on garde confiance?
Voilà. Les mêmes déjà. Les supporters peuvent demander la peau de l'entraîneur ou la peau d'un joueur. Ça, c'est il y a les mêmes leviers pour les supporters. Nous, on en a déjà parlé des leviers. Et puis c'est le lot de notre situation et de notre équipe. Les deux seuls leviers importants qui comptent et sur lesquels on peut avoir une influence. Le premier, c'est l'état d'esprit qu'on y met et qu'il faut garder et rester avec cette faculté de combattre et de mettre toute notre énergie dans le travail et dans le fight au moment du match et y mettre toute l'énergie nécessaire. Ça, c'est le premier levier, et c'est pas un levier qu'il faut galvauder, parce que c'est le plus important, parce que vous pouvez avoir les meilleurs joueurs du monde, si vous avez pas ce levier là vous y arriverez pas. Donc comme nous on n'a pas les meilleurs joueurs du monde, forcément on irait droit vers le mur. Et ensuite on croit énormément en ce groupe là et en sa capacité de progresser, on l'a toujours dit. Voilà, il se trouve qu'on a 98% de notre effectif qui a jamais connu le top 14, et sur nos compositions d'équipe c'est souvent le cas. Mais ces joueurs-là progressent. Nous, on estime qu'ils progressent en tout cas, et qu'ils ont encore une marge pour progresser, que c'est par rapport à cette progression-là qu'on va pouvoir gagner les matchs. Bien sûr qu'il y a des évolutions dans notre jeu. On joue pas tout à fait pareil que l'année dernière, parce qu'on change.
On voit quelques joueurs évoluer quand même. Ouais. Par exemple, de Julien Farnou, ça nous sort à Grenoble.
Exactement. On joue petit à petit à Toulon. Julien qui fait un très bon match d'ailleurs. Enzo Salponi sur un nouveau poste qui fait un très bon match contre Toulouse. Mais des joueurs qui élèvent leur niveau. Si on est Pukala qui est arrivé à un niveau à Toulon, qu'il avait pas touché depuis un petit moment, quasiment 2 ans d'ailleurs. Chenéru, Alain Brazo, La Boutelée, Forletta, Lam, etc. C'est des joueurs qui progressent énormément. Et si on veut s'en sortir, il faut avant tout s'attacher à faire progresser nos joueurs. Ensuite, effectivement, il faut en amener avec de l'expérience, plus de qualité, etc. Mais on connaît la difficulté de notre situation et la difficulté de pouvoir amener ce style de joueur. Par contre, on a sous la main des joueurs qui sont investis, qui donnent énormément et qui donc progressent. Et c'est avec ces joueurs-là qu'on va s'en sortir avant tout. Après, pour la peau de l'un, de l'autre, etc. Moi, les seuls supporters que je ne respecte pas, voilà, je le dis sincèrement, c'est pas ceux qui demandent la peau de l'entraîneur, celui-là je le comprends très bien, et puis on est là pour ça, et puis il n'y a aucun souci, tout le monde peut gueuler, il n'y a pas de problème, moi j'ai le cuir épais, donc c'est pas de souci. Mais et après tout le monde prendra les responsabilités qu'il doit prendre, mais c'est ceux qui attaquent humainement les joueurs, ceux-là je les respecte pas du tout, sincèrement. Voilà. Et je ne supporte pas ça, surtout sur un joueur qui se bat, quelles que soient ses erreurs, quel que soit son niveau du moment, quels que soient ses doutes, quel que soit tout ça. Cette problématique, mais le mec est tout à fait en haut des tribunes là-bas et qui insulte un joueur et tout ça. Alors lui, pour le coup, il vaut mieux qu'il le fasse pas à côté de moi. Je suis encore un tout petit peu trop sanguin pour pouvoir supporter ce genre de choses.
Une autre question, Perry Freshwater, on a parlé la semaine dernière, et même plutôt David Mellé faisait un parallèle intéressant où des fois on serait tenté de vous comparer aussi avec ce qu'a fait Grenoble il y a 2 ans, où tout le monde disait, vous jouez bien, mais ça marche pas.
Ouais.
Voilà, déjà. Et donc David Mellet, qui connaît deux situations, on lui en parlait, et je lui posais aussi la question de savoir le lot quotidien maintenant des clubs professionnels, tous ces joueurs, et encore plus cette année, les Français, qui sont courtisés par tout le monde, ces joueurs français, est-ce que ça peut pas mettre la pagaille dans un vestiaire? Lui nous répondait, avant de vous demander votre avis à tous les deux, que Grenoble, c'était une des choses qui avait pu perturber hautement le groupe et qui ne sentait pas que ce soit la chose qui perturbe le SAP en ce moment. Vous, c'est quelque chose que vous surveillez, vous êtes attentif, qui peut mettre la pagaille, des joueurs qui forcément sont sollicités.
Après Christian, c'est Christian qui va répondre à ça, mais je fais juste deux mots là-dedans. Chose à laquelle on est attentive, oui. Chose à laquelle on est
parce que vous voulez les faire re-signer,
vigilante et avec des propositions pour les faire re-signer, etc. J'ai dit que c'était sur nos joueurs qu'on comptait avant tout. Donc voilà, ils connaissent la confiance qu'on a en eux, notre volonté à continuer avec eux, la valorisation qu'on a sur eux, le fait que ça soit eux qui jouent aussi et qui sont partie prenante dans ce projet-là. Et ils ont mérité d'être partie prenante de ce projet-là. Et malgré les résultats, ils le méritent encore. Parce que sur le talent qu'il montre, le fait qu'on soit pas si loin, et l'envie qu'il montre, et l'abnégation qu'il montre, eh ben, il le mérite encore, parce que moi, je fais comme le public. Voilà, je considère qu'ils ont du mérite à faire ça, donc je leur reconnais ça. Ensuite, effectivement, c'est un des dangers, et effectivement, moi, je pense comme Dadou, je pense, j'espère, et j'ose espérer, etc., que c'est quelque chose qui va pas nous coûter si on doit malheureusement descendre à la fin de l'année. J'espère que ça sera pas à cause de ça, et je pense sincèrement que ça ne sera pas à cause de ça. Après, je vais vous rassurer, il y a les joueurs, les entraîneurs sont concernés par ce genre de choses aussi, et tout le monde.
La question est arrivée.
Manager est concerné par ce genre de choses aussi. Voilà, on a un manager de qualité, tout le monde le sait, donc forcément il est courtisé pour des missions diverses, et à un moment donné, donc ça peut perturber tout le monde, mais je pense sincèrement que tout le monde est investi dans ce projet-là, que tout le monde connaît la valeur de chacun dans ce projet-là, et qu'on est parti pour combattre tant qu'on nous donnera la confiance.
L'important, c'est donc de vite les refaire re-signer, Christian Lanta.
Oui.
Tous les joueurs, pas de cité, il y en a 14-15.
Je crois que la réussite de Grenoble, ça a été, même si Grenoble a été très perturbé à un moment donné, mais en définitive, Grenoble, ils ont gardé quasiment leur effectif. Ils ont perdu 2-3 joueurs, mais comme toute équipe.
Il y a deux ans.
Ils ont gardé quand même globalement.
Ils ont perdu un peu plus, ils avaient lancé des jeunes en premier deux, mais ils sont restés qu'un an.
Mais ils ont gardé des valeurs sûres, comme Hunt au centre, comme le capitaine. Ils ont gardé quand même tout ça. Ils ont gardé une ossature très top 14, et ce qui a permis. Mais il faut savoir qu'on s'y est tous engagés, joueurs, staff. Ça, c'est notre histoire à nous, personnelle, donc on ne peut pas tout dévoiler, mais on s'y est engagé dans cette aventure. Il y a l'engagement réciproque de tous. Ce qui a mené, ce qu'il a de meilleur, ses compétences, son talent de joueur, son talent d'entraîneur. Donc quelque part, on s'y est fait un pacte là-dedans, et on sait qu'il faut aller, nous, tout le temps au-delà d'un résultat pur et dur, et qu'on sait dans la situation où on est, et quand on a un tout petit budget, qu'on n'a pas une équipe qui est déjà tout à fait prête en top 14, on en connaît les risques, et quand on est monté, on en connaissait les risques. Et peut-être qu'on le vit, nous, de manière très très solide à l'interne, parce qu'on s'était préparé à tout ça. On s'était préparé, on savait que peut-être on n'y avait pas toutes les armes. Mais par contre, on est convaincu qu'on a suffisamment de potentiel pour, dès cette année, aller s'assurer un maintien. Voilà. Mais en même temps, l'histoire d'un club ne s'arrête pas à un maintien ou à une descente. Et il y a des histoires récentes qui l'ont prouvé. Et c'est pas se faire du bien à la tête. C'est la réalité. Les Pau, Lyon, trois fois descentes avant de se stabiliser. Donc, je dis pas que c'est pas très franchement, et j'espère qu'on va se maintenir. Mais en même temps, se maintenir, c'est aussi être dans la capacité, et là, c'est une histoire de club, à se donner bien d'autres moyens pour renforcer notre équipe. Sinon, on revivra avec un an d'expérience les mêmes choses.
Tout pourrait repartir à zéro.
Mais en même temps, on a un groupe, on croit en ce joueur, il faut stabiliser. Vous connaissez la règle des gifs aussi. Chaque année, il va y avoir des gifs des non-gifs de moins en moins. Donc, des joueurs sur qui on sait qu'ils ont un fort développement, qu'ils sont gifs, etc. Bien sûr qu'il faut les fidéliser et leur donner notre confiance. Ben, tout le monde le sait. La plupart de nos joueurs, les décisions vont se prendre dans les jours à venir. Et
il va y avoir des annonces pendant ces deux petites semaines de vacances.
J'espère bien, voilà.
Qui va signer.
J'espère le maximum. On en perdra peut-être un ou deux, parce que très franchement, vous savez, les grands clubs, et peut-être qu'on ferait pareil à leur place, ils attaquent.
Ils cherchent des gifs partout.
Avec des salaires trois, quatre fois supérieur au nôtre, donc c'est, ça peut troubler et ça peut perturber nos garçons quand même. Voilà. Alors ils feront parfois certains le 3-4e dans un club, mais en même temps, c'est compliqué. Mais je crois aux valeurs humaines, je crois à tout ce qu'on a vécu depuis 2 ans, 3 ans. Et j'ai la forte conviction que une grande partie de ce groupe, quoi qu'il se passe, sera à l'USAP la saison prochaine.
Et comment on recrute pour la saison prochaine, quand on est dans votre situation? Bah, ça coïncide avec ce que vous disiez, il faut après, il va falloir, on en parlera après, un plan sur la durée.
Très franchement, moi, je fais pas langue de bois. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible, mais les choses se décantent, voilà. Et à part les gros clubs qui font déjà des recrutements annoncés, même des recrutements qui sont faits depuis déjà 3-4 mois pour les grands clubs, parce que eux, leur histoire, elle est assez simple. Ouais. Elle est assez simple pour des clubs comme nous, c'est plus difficile. Mais en attendant, c'est définir une politique de recrutement, c'est trouver les moyens financiers en face. Et il est clair que l'objectif serait bien sûr de garder la plupart de nos garçons et amener à cette équipe 3-4 joueurs, mais qui amènent vraiment une haute plus-value et qui amènent une forte expérience, une forte plus-value. Parce qu'on sait que si on a des garçons comme ça, l'ensemble du groupe progresse. Et c'est un groupe qui aura un an de vécu. Et qui progressera au contact de joueurs, voilà. Alors après, c'est petit à petit, c'est convaincre, c'est un travail de longue haleine, de créer des relations de confiance aussi avec les garçons qui pourraient venir, voilà. Et puis c'est des profils de garçons, voilà, qui peuvent s'inscrire dans une histoire, qui ont des profils de leader, qui ont des profils pour s'investir dans un club. Donc voilà, il y a un travail qui est fait là-dessus pour que l'aventure USAP continue.
Et ça continue dans un instant sur France Bleu Roussillon après ça.
L'USAP. Suivez l'USAP avec Limonette Mille, limonade à l'eau de source et aux extraits naturels d'agrumes. Plus d'infos sur www.limonette.com. France Bleu.
218 musiciens et chanteurs sous la direction de Daniel Tosi. Avec le violoniste soliste Diego Tosi pour donner corps à la musique bohémienne, tzigane et classique comme Maurice Ravel. Soyez des nôtres le dimanche 11 novembre à 16h29 au Palais des Congrès. Gagnez vos places sur France Bleu Roussillon.
Les éditions Radio France présentent 42e rue, la grande histoire des comédies musicales de Laurent Vallière. De Broadway à Paris, de George Gershwin à La La Land, en passant par West Side Story, Les Demoiselles de Rochefort ou Starmania, découvrez l'univers passionnant de la comédie musicale dans un livre référence illustré de photographies, de documents et d'interviews. 42e rue. La grande histoire des comédies musicales de Laurent Vallière. Une coédition Radio France.
La saison démarre aux Angles.
Préparez vos skis et votre planche et bénéficiez d'offres exceptionnelles jusqu'au 2 décembre. Écoutez bien, moins 15% sur le forfait saison. Ou pour 3 forfaits saison achetés par famille, le 4e est gratuit.
Nouveau cet hiver, l'espace aqua bien-être Angléo. Alors doublez les plaisirs et rendez-vous aux Angles ou sur lesangles.com.
On en parle.
Le passage au prélèvement de l'impôt à la source en janvier soulève beaucoup de questions. On y répond aujourd'hui avec le ministère de l'Action et des Comptes Publics et Denis Putkovnik du Centre Impôt Service de Lille. Bonjour.
Bonjour.
Alors, il y a Fatou qui s'interroge sur les différents taux de prélèvement.
Effectivement, il y a plusieurs taux. Et sans démarche de votre part, c'est le taux personnalisé qui sera utilisé.
D'accord.
Il est calculé sur la base des revenus 2017 de votre foyer et sera automatiquement transmis à votre employeur.
Bien. Mais si on ne veut pas que ce taux soit transmis à l'employeur?
C'est votre droit. Dans ce cas, il faudra opter pour le taux non personnalisé qui correspond à celui d'un célibataire sans enfant. Il sera appliqué par votre employeur.
Oui, et on peut aussi opter pour un taux individualisé.
Oui, si vous êtes marié ou pacsé et que vous avez un fort écart de revenus, vous pouvez choisir d'être prélevé à des taux différents. Faites-le avant début novembre pour qu'il soit appliqué dès janvier 2019. Par la suite, vous pourrez changer votre taux à tout moment.
Denis Putkovnik, merci.
Plus d'infos sur impots.gouv.fr.
On en parle.
França Blau Rosselló, Els Angles,
France Bleu Roussillon,
106.7.
Un dernier point trafic, Sébastien Giraud.
Avec toujours cet accident entre Canet et Saint-Nazaire, soyez vigilants s'il vous plaît. Un autre accident qui nous est signalé sur la D900 après le boulot, secteur de Villemolac en direction de Perpignan là aussi. Restez vigilants, nous avons un trafic qui s'est nettement amélioré sur Perpignan, ceci étant, il y a toujours du monde sur l'avenue de Prades en direction du Soleil après Saint-Assisque. On a du monde sur le pont Aragon en direction du Sud, sur la voie sur Berge en direction de Canet, en direction du centre-ville. Il y a un trafic toujours chargé sur l'avenue du Languedoc. Et puis ça coince au niveau du rond-point du Serra d'Envaquet, Philippe.
Merci Sébastien Giraud, on vous retrouve demain à partir de 14h sur France Bleu Roussillon.
France Bleu Roussillon. France Bleu Roussillon. Lundi, c'est rugby.
Et c'est suite et fin de lundi, c'est rugby. N'est-ce pas, Cyril Magnat, avec vos invités Patrick Arletaz et Christian Lanta.
Oui, juste avant de terminer avec Patrick et Christian, on l'avait appris juste avant lundi, c'est rugby. Mauvaise nouvelle financière pour l'USAP, mais qui était attendue. C'est la Cour d'appel Montpellier qui a confirmé le jugement du 10 avril. Et l'USAP condamné à payer 320 000 euros à l'URSSAF. François Rivière avait juré, on va dire, en avril dernier, que tout était provisionné. Donc, à voir par la suite. On y reviendra, bien évidemment, demain matin dans la matinale de France Bleu Roussillon. Mais une question à Christian Lanta, justement. François Rivière, c'est vrai qu'il parle très peu. En ce moment, on le voit pas beaucoup. Et je le dis aux supporters, hein, on l'invite dans le Nice et Rugby. On espère, on devrait l'avoir d'ici 2-3 lundis. C'est vrai qu'il est très discret, François Rivière.
Ouais, très franchement, c'est pas à moi à me prononcer sur ça, c'est le président. Je pense que le président sait ce qu'il fait. Donc, non, mais c'est pas à moi à me positionner sur ça. Je crois qu'il a fait quand même un ou deux articles, non? Sur le middle ou.
Non, il y a l'impliqué chez nous cette année, il a parlé.
Bon, ben voilà, donc. Donc je crois qu'il a émis.
En même temps, il y a trois ans, on lui reprochait de beaucoup trop parler.
Ouais, mais ça, c'est écoutez, très franchement, je suis mal placé pour je peux pas moi ou dire ce que mon président a à faire ou expliquer pourquoi il parle trop ou pourquoi il parle pas assez. Donc il faut lui poser la question à lui.
Mais on espère, on attend voilà. de pouvoir la lui poser.
La seule chose qui est embêtante là-dedans, c'est qu'on ne pourra pas avoir, donc si j'ai bien compris Christian, Kyrian Reid et Rico Ioane, c'est pas
possible. Ils avaient dit oui.
Avec les trucs, ils avaient dit oui. Avec les 320 000, on les avait tous les deux. Quoi.
Ah, 320
dommage.
000.
Non, mais 320 000.
On en avait qu'un.
Le mois. Je vous laisserai.
Le mois,
ça entre vous.
Bon, après, ce que je sais, c'est des sommes qui sont provisionnées, oui.
C'est ce qui avait été annoncé par François Rivière en avril dernier.
Donc, ça ne devrait pas impacter le budget actuel.
Alors, c'est un débat, une question qu'on aborde souvent avec vous, Christian Lanta. On attend toujours un gros projet. Est-ce qu'il y a des avancées du côté de l'USAP, du centre d'entraînement, centre de formation, projet du stade qui devait être présenté d'ici la fin de l'année? Est-ce qu'il y a des choses qui avancent de ce côté-là du salon?
Non, mais on y travaille au quotidien, on y travaille tous les jours. Vous vous doutez bien que c'est des projets qui sont énormes. Et je crois que moins on en parle. Moi, vous savez, la communication, elle peut être à double danger, double tranchant. Voilà. Donc, je crois qu'on travaille. Laissez-nous encore un peu travailler. Moi, en tout cas, j'espère être caution de ça. Voilà. Le jour où on annoncera, si ça doit être annoncé, en tout cas, moi, à l'interne du club, je veux que ce soit très précis, très construit, que pratiquement, quand on l'expose, on ait répondu à 80% de vos questions, et que ce soit quelque chose de très, très construit. Donc, on y travaille. C'est quand même un travail. On y travaille déjà. Là, ça fait pratiquement un an. Un an et demi. Un an et demi au quotidien. Voilà, laissez-nous un petit peu de temps, parce que c'est du temps qu'il nous faut, mais ça, je pense que les annonces, si elles doivent venir, se feront avant la fin de l'année en cours. Voilà, donc on est quoi? Dans un mois et demi.
En tout cas, c'est un projet.
J'ai un peu de patience.
Aujourd'hui, on le demanderait. Non, pas lundi prochain.
Et là, je pense que le président sera à ma place là pour vous en parler.
Avec grand plaisir. Et justement, vous, personnellement, c'est un projet sur lequel vous souhaitez vous inscrire, parce qu'on parlait de l'avenir des joueurs, mais vous, le vote, comme vous entendez tout à l'heure, Patrick, il n'est toujours pas décanté pour la saison prochaine aussi. Des entraîneurs, même si bien souvent on est ingrat, on ne s'occupe pas des coachs, on s'occupe des joueurs. Vous, c'est un projet qui vous intéresse? Continuer?
Ça se pose pas en ces termes. En tout cas, moi, ce que j'aime, c'est y travailler depuis un an et demi. Oui, en arrivant, c'est mon rôle. À partir du moment où on donne responsabilité, j'essaie de donner ma vision des choses, de les partager avec les gens qui m'entourent. Voilà, je suis un élément parmi d'autres, mais d'y amener mon expérience, ma vision et mon investissement. Oui, c'est quelque chose que au quotidien j'aime faire et dans lequel je m'investis à 100%, voilà. Donc après, ce sera une organisation, ce sera mettre des hommes, ce sera mettre des compétences, ce sera mettre là, bien sûr, quand on est à la naissance d'un projet, on aime bien quand même l'amener au bout.
Pour vous, là, on est vraiment à la naissance, toujours sur la naissance d'un projet. C'est ce qui reste, donne de l'espoir à l'USAP en ce moment?
C'est l'espoir, c'est l'USAP doit se construire sur ça. Moi, je m'en suis exprimé. Si l'USAP n'a pas compris à ce jour, en fait, c'est des choix. C'est un choix qui est à faire et c'est très difficile. Où on continue ce que fait l'USAP d'aujourd'hui et c'est sans aucune critique. Mais l'USAP sera plus souvent en Pro D2 je m'excuse, beaucoup plus souvent en Pro D2. Et la Pro D2 évolue aussi quand on voit les budgets de Nevers à 13,5 millions. Et pour rester en Pro D2, on voit les difficultés d'un Colomiers, d'un Montauban, d'autres équipes qui, encore en 2 ans, brillaient. Et on voit la montée en puissance de beaucoup d'équipes. Donc il faut être très vigilant, mais si on veut vraiment inscrire l'USAP en top 14, attention, hein, qui est un défi dantesque, qui est quelque chose quand même, il faut, là aussi il faut mesurer les budgets qu'il y a en haut de ce top 14. On sait qu'aujourd'hui, mais il le faudrait presque là dans les 1-2 ans, se maintenir, ça se joue autour de 25 millions, et demain ce sera entre 25 et 30 pour pouvoir se donner un effectif dont on est à peu près sûr, sauf gros accident, qu'on puisse se maintenir. Donc, vous voyez l'écart qu'il y a entre ce que l'USAP est aujourd'hui et demain. Donc, c'est quelque chose qui va se construire sur de la durée. Il n'y a pas un coup de baguette magique qui va faire que l'USAP, mais en tout cas, je crois que les gens qui sont à la tête de ce club, et je me suis exprimé, c'est le projet de tout un territoire. Et c'est pas que d'un président. Là aussi, un club, ça se réunit pas un président. Alors, à lui de fédérer autour de lui, à lui d'être le porteur d'un projet et de rassembler autour de lui les gens important et qui peuvent mener ce projet-là. Mais c'est incontournable. Si on veut que l'USAP joue un rôle en top 14, c'est un projet qui est d'une nécessité absolue.
Rapidement, Patrick.
Non, juste après, j'ai une dernière question à poser très vite. Pour faire, ouais, non, juste pour faire le supporter usapiste, mais le véritable gros enjeu, là c'est le supporter qui parle, etc. Effectivement, c'est le virage que doit prendre l'USAP maintenant, parce qu'avec tout le retard qu'elle a pris et qu'elle n'a jamais pris un virage, finalement elle s'est laissée couler petit à petit. Et personnellement, moi, en tant que supporter usapiste, je serais amplement rassuré si j'étais à la place de tout le monde que ce virage-là se fasse avec Christian qui tient un peu le volant. Je dis ce que je pense. Bon, voilà. Donc que ça soit bien clair. Voilà, je crois que c'est une chance pour l'USAP d'avoir à un moment donné un monsieur qui, à un moment donné, place l'USAP sur les bons rails comme il le fait depuis 2 ans.
Merci Patrick Arretaz, merci Christian Lantin.
Merci, bonsoir messieurs, c'est la fin de l'Odyssée Rugby. On revient lundi prochain sur France Bleu Roussillon. Bonne vacances à vous.
France Bleu Roussillon. France Bleu Roussillon. Lundi, c'est rugby. À réécouter en podcast sur FranceBleu.fr.